Les médias font partie
grande de nos vies, pardon. Tout a commencé avec la radio au début du 19e qui informait les gens. Puis s'est démocratisé le cinéma un tout petit peu après pour faire vivre des histoires. La télé ensuite s'est installée dans les foyers. Elle divertissait les populations sans qu'elles aient besoin de se déplacer dans les salles pour voir des images en mouvement. C'est à ce moment-là qu'est arrivée la question de l'interactivité. Si la télé et le cinéma ont été inventés, c'était pour divertir les gens, pour les faire oublier le quotidien, le temps d'un film ou d'une série. Mais certains n'étaient pas assez satisfaits et voulaient utiliser les moyens de diffusion pour jouer dessus et aussi explorer les possibilités techniques. C'est dans cette optique qu'a été inventé l'ordinateur, basé sur une machine d'Alan Turing dans les années 50. Et c'est aussi comme ça qu'est né le jeu vidéo. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et bien que d'habitude je parle de cinéma, aujourd'hui on va se balader dans le monde des adaptations vidéoludiques. Déjà, dans les années 50-60, on cherchait à jouer sur des vieux ordinateurs qui faisaient la taille d'une cuisine aménagée. C'est en 1972 que Pong, tout premier vrai jeu vidéo, voit le jour. C'est le pionnier des jeux à avoir été commercialisé comme tel. C'est donc pour ça qu'il est considéré comme le point zéro de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Pong était un jeu très simple qui consistait à envoyer une balle dans le camp adverse à l'aide d'une barre, un peu comme le tennis.
Ou le ping-pong.
Oui, mais en beaucoup plus simplifié. C'est lui qui a lancé les jeux d'arcade, qui faisaient fureur dans les années 80-90. L'âge d'or sera atteint 6 ans plus tard, 1978, avec Space Invaders, de la société japonaise Taito, où l'on joue à un vaisseau qui doit abattre des aliens descendant petit à petit vers le bas de l'écran. En 1983, Nintendo sort la Family Computer, ou Famicom au Japon, qui a lancé la mode des consoles de jeux, suivie de très près par Sega, qui sort la Sega Game 1000, ou SG-1000. 2 ans plus tard, il s'exporte à l'international avec la Nintendo Entertainment System, ou NES, côté Nintendo, version mondiale de la Famicom, et la Sega Master System. La même année, en 85 donc, sort Super Mario Bros. Sur la NES. Immense succès lançant Nintendo comme à la grande entreprise vidéoludique que nous connaissons aujourd'hui. Ce succès a également mis fin au grand krach boursier des jeux de 83, causé par l'incapacité des éditeurs américains à trouver leur public, permettant aux Japonais de prendre le contrôle du marché et d'asseoir leur suprématie sur ce média. L'année dernière, c'était les 35 ans de Mario et par conséquent du renouveau du jeu vidéo. Au fil des années et des évolutions, les jeux vidéo ont su gagner une place importante dans nos vies. Et bien qu'aujourd'hui, les joueurs sont de tout âge, à l'époque c'était des jeunes ados, des pré-ados et des adultes qui débutaient dans la vie, qui jouaient le plus souvent. Autrement dit, c'était une cible marketing. Il n'a pas fallu longtemps aux producteurs de cinéma pour vouloir transposer les aventures des personnages en 8 bits sur grand écran. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et pourtant, sur papier, ça ne semble pas très compliqué d'adapter un jeu vidéo au cinéma. Après tout, on a une histoire, il suffit de construire le film autour de ça. Mais lorsque l'on s'attaque à des jeux qui n'ont pas vraiment d'histoire, comme Super Mario Bros., cela devient tout de suite bien plus fastidieux. Même si en 93, soit l'année de sortie de Jurassic Park, c'est l'adaptation de ce jeu vidéo qui sort sur les écrans, un film avec de vrais acteurs bien évidemment, sinon c'est pas drôle.
Ils sont frères. Ils sont plombiers.
Oh non. Mario. Luigi.
Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite.
C'est magnifique.
Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir. Devient maître absolu de l'univers.
Apportez-moi la pierre. Viens la chercher, vieux tétard.
Plombier. Il leur faudra sauver la princesse.
Quoi que vous puissiez imaginer, c'est pire. Le film oublie le royaume champignon, l'univers mignon, la princesse Peach et les ennemis rigolos. Ici, on est à Brooklyn. Parce que pourquoi pas. Et les deux frères plombiers sont à la recherche de la princesse.
Peach
Daisy, enlevée par le méchant...
Bowser
Non plus, coupa. Tout ça pour récupérer un fragment de météorite. Absolument rien n'est respecté. Le visionnage en est mi-affligeant, mi-amusant, mais le film est quand même très mauvais. Il se paye tout de même des têtes d'affiche. Bob Hoskins, de Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui jouait le détective dans le film. Il joue Mario. John Leguizamo, qui apparaîtra plus tard dans Roméo plus Juliette et Moulin Rouge de Baz Luhrmann, qui joue Luigi. Ainsi que Dennis Hopper, sur Le Roi Koopa, ayant joué dans La Fureur de Vivre, aux côtés de James Dean et Apocalypse Now. Le film a été un échec critique, financier et cinématographique, mais ça n'a pas empêché d'autres studios de s'essayer au genre, avec Double Dragon, Double Dragon, et Street Fighter en 94, ce dernier avec Jean-Claude Van Damme et Raoul Julia, Ce dernier, on le retient surtout pour son rôle de Gomez dans La Famille Adams et sa suite. Encore une fois, des échecs critiques. Cependant, là où Doudou Double Dragon a été un plantage royal et complet au box-office, Street Fighter a ramené le triple de son budget malgré les avis, et cela a encouragé davantage les producteurs à produire d'autres adaptations de jeux vidéo au cinéma. Pas moins de 17 films adaptés de jeux vidéo sont sortis dans les années 2000. Et je ne compte que les sorties internationales au cinéma. Le bon a côtoyé le très mauvais, mais on peut retenir le sympathique Silent Hill, adapté du jeu d'horreur du même nom, réalisé par le français Christophe Gans, également à l'origine du Pacte des Loups. Le film brille bien plus par la réalisation et son ambiance esthétique que par son scénario, mais c'est déjà ça. Puis vint les années 2010, avec la suite de franchises qui fonctionnaient comme Resident Evil, et d'autres films originaux comme le sympathique Prince of Persia de Mike Newell, réalisateur de 4 mariages dans l'enterrement et du 4ème film Harry Potter, aussi le assez réussi Assassin's Creed, et le fantastique détective Pikachu aux effets spéciaux fabuleux. Et aussi au Japon, le assez inégal mais très fidèle Ace Attorney de Takashi Miike, tiré de la licence de jeu de procès du même nom. Il y a enfin pas mal de films d'animation, dont le génial Professeur Layton et la Diva Éternelle, et toute la série de films Pokémon que je n'ai pas vu. Alors, je viens de parler d'adaptation, mais parfois l'intrigue d'un film prend son inspiration dans le jeu vidéo. Par exemple, avec l'utilisation d'objets menant à un endroit, pour trouver un autre objet menant à un autre endroit, rappelant la progression de jeux d'aventure à base de quêtes. Ou bien dans l'esthétique aussi, comme Scott Pilgrim d'Edgar Wright, qui est tiré d'une bande dessinée déjà ultra référencée, mais ajoute lui-même un tas de références vidéoludiques, comme le générique du studio Universal au début du film, qui est tout en pixels. Il y a aussi le sympathique Ready Player One de Steven Spielberg, qui pour le coup se passe dans un jeu vidéo, c'est donc logique d'avoir un tas de références, et une progression qui rappelle le média. Et ce n'est pas tout, car l'inverse existe également. Certains jeux sont célèbres pour s'inspirer en grande partie du film ou de leur univers, notamment la série des Max Payne et des jeux Mafia, s'inspirant des films noirs des années 40, avec des flics traquant les gangsters. Ou des jeux produits par des grands fans de cinéma, comme le célèbre Hideo Kojima, qui a donné naissance à la licence Metal Gear Solid, rendant hommage aux films de guerre, utilisant un bon nombre de procédés cinématographiques. Il est allé jusqu'à créer un jeu, Death Stranding, s'apparentant beaucoup plus à un film dans sa manière de construire son histoire ou de réaliser le jeu. Par exemple, les personnages sont incarnés par des grands acteurs d'Hollywood. Mais alors, quel est le problème avec les films adaptés de jeux vidéo ? Quel est mon problème avec les films adaptés de jeux vidéo ? Pourquoi sont-ils aussi peu populaires ? Eh bien, ça vient du principe de base du jeu vidéo. Rappelez-vous, en début de chronique, je vous ai dit que leur but était d'offrir une interactivité sur un écran, ce que ne peut pas offrir un film. Le joueur ou la joueuse a l'habitude d'être manette en main, devant l'écran, à se laisser guider par le scénario tout en choisissant sa manière de vivre l'histoire. C'est cela tout le sel vidéoludique. Dans un film, on suit l'histoire imposée par le scénariste, mise en scène par le réalisateur, et en soi, c'est pas un mal, mais c'est aussi l'intérêt d'un film. Et c'est peu compatible avec le format jeu vidéo. Et c'est pour cela que bien souvent, les films comme ça se plantent, parce que les personnes derrière les projets veulent faire plaisir aux joueurs et vont réaliser un film qui ressemblera à un assemblage cinématique, comme le film Max Payne, plutôt qu'un vrai film avec une véritable écriture cinématographique et une histoire dans un univers adapté d'un jeu vidéo, comme a pu l'être Détective Pikachu, qui reste la meilleure adaptation que j'ai pu voir à ce jour. Dites-moi, Camille.
J'aime beaucoup Pikachu, il est sans doute négligé comme personnage.
Oui, et le film est excellent, il est très beau, il est très mignon aussi, les Pokémon sont très mignons. Mais je garde espoir, les scénaristes d'aujourd'hui sont les joueurs d'hier, et si on peut avoir de bonnes adaptations, il y a des chances qu'une d'entre elles sorte du lot et guide les autres vers un avenir meilleur, lorsqu'on pourra à nouveau aller en salle, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus sur les films adaptés de jeux vidéo, je vous conseille la chaîne de Karim Debbache sur YouTube, qui animait l'émission Crossed à une époque, avec une vingtaine d'épisodes de 10 minutes chacun, traitant tous d'un film en rapport avec le jeu vidéo. C'est très drôle, c'est bien écrit, c'est intéressant, alors surtout n'hésitez pas.
Merci Céleste.
Je vous en prie.
Je crois que tu as choisi une musique qu'on va écouter après, mais
oui, merci. C'est pour ça que je n'ai pas conclu.
Pour ce beau focus cinéma et jeux vidéo, et Mehdi, toi aussi tu as des choses à partager avec nous dans cette thématique jeux vidéo qu'on pose aujourd'hui.
Bah, moi c'est plus par rapport à un youtubeur que je trouve vraiment drôle. Donc c'est un youtubeur qui a sorti récemment une vidéo sur le jeu Cyberpunk 2077. Je sais pas si vous connaissez.
Ah non, moi je veux bien que tu résumes, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui se disent « Mais c'est quoi Cyberpunk 2077 ?»
Bah, en gros, c'est un jeu futuriste qui était attendu ces dernières années.
Donc on est sur un jeu récent. Hein.
Voilà, un jeu très récent, il est sorti en décembre. Et voilà, tout le monde l'attendait. Et il est sorti, et il a eu un gros succès, mais pas pour les bonnes raisons, en fait. C'est parce qu'il était rempli de bugs incroyables, en fait. Des bugs qu'on peut carrément appeler artistiques.
Tu peux nous donner des exemples ?
Des exemples, je sais pas, franchement.
Genre des murs qu'on peut traverser, ouais, des personnages à trois bras, je sais pas, j'imagine, j'ai pas vu. Hein, j'ai
non,
pas
c'est
joué.
Du genre.
J'en ai vu aussi, il y avait des voitures qui étaient pas vraiment des voitures, c'était vraiment des cubes. Clairement, il y a des trucs qui n'étaient pas codés, des personnages qui donnaient pas de quête ou.
Ouais, voilà.
Ou qui étaient. Il y a même, j'ai même vu passer une photo où on voyait des enfants, en fait, c'était vraiment des adultes, mais réduits. Avec les têtes d'adultes, un corps d'adulte, mais en plus
des
petit.
Des proportions d'adultes, mais
voilà, en réduit, quoi.
D'accord, donc vous nous conseillez ce jeu ?
Bah, franchement, il est quand même stylé.
Moi, je ne conseille pas.
Mais en vrai, les bugs, ça rajoute limite, il y a un côté marrant, mais en vrai, t'achètes pas le jeu pour ça, tu vois.
Ça fait cher, peut-être attendre que le prix pèse bien.
Ouais, mais il y aura peut-être des mises à jour, et on espère qu'il y aura moins de bugs d'ici là.
Ouais. Et tu peux nous rappeler la oui, vidéo chaîne ou
c'est Cheshounet. Alors Cheshounet.
Mm-hmm. On mettra les liens sur les podcasts.
Ouais. Et il est vraiment marrant. Il fait même des vidéos où il joue à des jeux. Il fait des petits coups de foireux à d'autres joueurs qui l'insultent et ça c'est vraiment drôle.
Ok. Donc c'est un YouTuber qui se filme en train de jouer.
Ouais. Il fait aussi des vidéos vraiment avec un vrai montage. Il fait des critiques de jeu.
Tout est sur le jeu vidéo.
Bugs.
Ok, ça marche. Je suis sûr que les jeunes connaissent.
En parlant de critique, pardon Ali, je te coupe, je suis désolé.
C'est parfait.
Je peux aussi conseiller une autre chaîne qui s'appelle Savun, yes. S-A-V-U-N, qui est un peu comme Cheshounet, il fait des critiques de jeux, mais lui, c'est vraiment dans un but humoristique et il a une façon de monter qui est très, soit rapide, soit lente, mais c'est vraiment un rythme humoristique bien défini. Le rythme est très important dans son humour. Et il y a beaucoup de références, il y a du running gag dans toutes ses vidéos. Et c'est très drôle.
Du running gag ?
Du running gag, oui. Alors le running gag...
C'est comique de répétition ?
C'est du comique de répétition, voilà. C'est quand tu instaures une blague à un moment et tu y reviens. Lui, il y revient soit plus tard dans la vidéo, soit dans d'autres vidéos après.
Ok.
Et c'est ce qui rend la blague de plus en plus drôle.
J'aime bien ce genre d'humour.
Ouais. Je suis à deux doigts de partager avec vous une blague, mais...
Vas-y.
Alors, peut-être chez vous, vous pouvez réfléchir, mais en fin de soirée. Qu'est-ce qu'un canif ?
Je ne sais pas, Annie.
Un petit fien. Allez, c'est cadeau. J'en conclue que vous jouez aux jeux vidéo. D'autres choses à partager ? Moi, je me sens larguée sur cette thématique. Voilà, vous savez tout.
Non, rien de plus. La chaîne dont j'ai parlé tout à l'heure de Karim Debbache, c'est pas vraiment du jeu vidéo, c'est vraiment beaucoup de... Ça parle de cinéma.
Excusez-moi.
Okay.
De cinéma. Mais c'est un rapport, c'est que ça comme le jeu vidéo, mais là, c'est l'adaptation de jeux vidéo au cinéma.
Encore tant de choses à aborder dans toutes les émissions
tellement,
futures.
Ça nous fait tellement de sujets à parler.
Ok. Si vous nous avez tout dit, Céleste, tu peux nous présenter ton choix musical ? Et pourquoi ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait là ?
D'accord. Donc, avant de vous laisser de terminer cette chronique, je voulais vous partager la chanson « To All of You » du groupe français Sid Matters, qui est une chanson qui est apparue dans le jeu Life is Strange, du studio français Dontnod Entertainment. C'est un jeu que j'aime particulièrement, et dont la musique a été composée par le chanteur du groupe Sid Matters, qui s'appelle Jonathan Morali. Et donc, voilà, je l'aime beaucoup.
Donc on écoute All of You, ok.
To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. to all of you American girls in the movies. No one can tell where your heart is. American girls like dollies with shiny smiles and plastic buddies. I wish I had when I fly.